Bonsoir et donc bienvenue pour ces regards critiques numéro 4 qui sont frôlés, pourrait-on dire, par la tragédie du monde et la tragédie de la vie, ce qu'il faut bien mentionner au début de cette soirée. Cependant, ce cycle... Ce nouveau cycle avec Bernard Eisenschitz est intitulé « Ceci n'est pas un documentaire », ce qui signifie bien évidemment, du moins je l'imagine, bien évidemment étant trop, ce qui signifie peut-être, sans doute, qu'il est placé aussi d'une certaine façon sous le signe de Magritte et peut-être que la personnalité du grand peintre surréaliste belge va nous apporter des enseignements à la fois sur la nature du cycle et à la fois sur l'esprit du concepteur du cycle en question. D'autant plus que le tableau donc très célèbre qu'on appelle ordinairement « Ceci n'est pas une pipe » s'appelle « La trahison des images ». Et donc, évidemment, la réflexion de Magritte surplombe bien clairement le type de travail qui vous est proposé de faire. Les premières lignes de l'introduction de Bernard Eisenschitz sont peut-être aussi dans une tradition qui serait celle de Magritte, puisqu'il commence en disant que pour lui, je cite, « deux mots ne figurent pas dans mon vocabulaire, en tout cas comme substantif, documentaire et réel ». Et donc... à l'ouverture d'un cycle organisé au premier lieu par le service audiovisuel de la BPI, célèbre pour son travail sur le documentaire et pour le festival qu'il soutient, le festival du réel. Cela est comme un espèce de retour sur « ceci n'est pas une pipe » ou du moins ceci marque bien le paradoxe de la démarche qui, avant tout, cela dit, le paradoxe de la situation, puisque au fur et à mesure de notre exploration de regard critique après regard critique, c'est bien cette frontière entre fiction et documentaire, c'est bien cette interrogation sur le rapport du cinéma au monde, comme ça on va éviter au réel, qui est toujours interrogé et remis en cause. Mais cette remise en cause des frontières théoriques devra bien un jour amener une remise en cause des petites frontières institutionnelles. C'est du moins ce dont on essaie ici de faire la preuve. Donc vous avez une présentation de Bernard Eisenschitz. Alors dans un ordre très particulier de tous ces rôles et ces missions, puisqu'il est d'abord traducteur, historien du cinéma, réalisateur, programmateur, acteur. Alors, je ne sais pas, c'est vous, Bernard, qui avez choisi cet ordre ou pas ?
Je ne sais plus.
C'est un ordre du hasard, mais le fait de ne pas avoir mis en tête historien du cinéma m'apparaissait encore comme une touche que vous auriez pu apporter. Moi, je voudrais bien sûr insister sur... parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire, sur Bernard Eisenschitz, acteur, puisqu'il a été choisi par les plus grands, Jacques Rivette, Jean Eustache, Jos Eliani, Wim Wenders, Luc Moulet, et que très récemment, il a joué dans le film L'Idiot de Pierre Léon, un rôle qui a eu, je crois, beaucoup d'importance pour lui et pour nous, bien évidemment. Donc, je ne vais pas mordre sur sa propre présentation, juste pour dire que par rapport au jeu de montage et de mise en relation entre le journal d'Ernst Jünger et les différents autres éléments qui sont intégrés dans le film, il faudrait également avoir... quelque part dans la pupille, l'écart qui existe entre la manière dont Jünger justement a construit sa figure de sage, d'anti-nazi, etc., etc., et le type de rôle beaucoup plus complexe, pour le moins, qu'il a pu jouer tout au long du siècle, puisqu'il est mort à 102 ans, ce qui n'est pas un crime en tant que tel. Voilà, c'était déjà une trop longue introduction et je laisse tout de suite la parole à Bernard Eisenschütz.
Mais je crois me souvenir que Jünger était venu au centre et qu'il y avait eu pas mal de remous de gens qui évidemment n'avaient pas tout à fait l'âge d'avoir connu les crimes qu'on lui imputait, mais qui sur le principe avaient protesté contre sa présence. Ce souvenir que j'avais eu très longtemps, mais c'était très longtemps après le film de Kozarinski, puisqu'il a survécu à bien des choses, et également au film d'Edgar Doe. Bon, voilà. Je fais une petite présentation qui n'est pas une présentation du film, qui n'en a pas besoin, mais simplement pour préciser des choses qui sont déjà dites dans le dépliant, bien sûr. Bon, d'une part, je ne suis pas un spécialiste du documentaire. Je n'ai pas particulièrement qualité à parler ici du cinéma documentaire. Et la seule chose qui m'a vraiment rendu curieux au moment de la proposition que m'a faite Catherine Blangonnet, c'était précisément d'essayer de m'en expliquer. Parce que pour moi, depuis que je commençais à aller voir des films, c'est exactement comme ce que dit Godard à Narboni dans la compilation qui est sortie en salle assez récemment. C'est un des rares moments qui ne sont pas trop honteux dans cette compilation. Quand je suis arrivé au cahier, dit Godard, on ne savait rien, mais on savait une chose, c'est que le documentaire et la fiction, c'était la même chose. Voilà, donc ça, c'était au moment où j'ai pensé... Bon, je ne connaissais pas encore cette remarque, mais c'était pour moi une évidence que, d'une part, c'était la même chose, mais qu'en même temps, ça n'était pas identique, qu'en même temps, il y avait des croisements, des gradations, et puis surtout que finalement, bon, dans les films qu'on a vus, il y a une certaine quantité de films qui restent des énigmes, et quoi qu'on fasse, quoi qu'on les travaille, quelles que soient les interprétations qu'on peut en donner, ces films restent, ils gardent une qualité d'opacité ou de mystère ou d'inexpliqué qui fait qu'on n'en a pas trop, on n'en a pas fait le tour, voilà. Et c'est ça qui m'intéressait. Et en effet, dans les films de non-fiction, je préfère, bon, à défaut de mieux, je préfère ce terme qui n'est pas très joli, dans les films de non-fiction, il y en avait beaucoup qui me posaient ce genre de questions. On sait qu'il y a des films dont on finit pas. Enfin bon, il est bien connu qu'il y a 25 ans, Vertigo était considéré comme un ratage sympathique de Hitchcock, et qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'interprétation de Vertigo qu'il n'y en a de l'assassinat de Kennedy, par exemple. C'est la même chose pour ces films, sinon qu'on en a moins parlé que Vertigo. Et j'ai délibérément pris le parti pris inverse de celui de Jean-Louis Comolli, qui dans son premier et remarquable double cycle avait fait un survol de ce que pouvaient être des crêtes du cinéma de non-fiction, et avait choisi également des films sur lesquels il avait beaucoup travaillé. J'ai pas choisi des films sur lesquels j'ai beaucoup travaillé, j'ai choisi des films sur lesquels j'avais envie de travailler, et la découverte viendra non pas de pair, parce que j'ai quand même un petit peu revu, etc., mais cette découverte ne mènera pas vers une conclusion unique, mais peut-être vers un certain nombre de questions, film après film ou séance après séance. Voilà. Donc, il me semblait que le film de Kozarinski, que j'ai revu ici il y a à peu près un an, jour pour jour, dans un cycle consacré à Alberto Manguel, enfin dans une carte blanche offerte à Alberto Manguel, il me semblait que ce film, ça a été un peu un déclencheur du programme pour moi. Il me semblait qu'il croisait toutes les questions qui me paraissaient mériter de se poser. Et bon, voilà, le voilà donc, qui vous est soumis. Heureusement, le film, heureusement pour nous, le film passe assez rarement. Et je suis très très heureux de pouvoir le présenter. Il m'avait semblé voir Edgardo entrer là, mais c'était une fois de plus une trahison des images, puisqu'il est à Buenos Aires où il présente son dernier roman. Donc le film date de 1981 et dure 1h46. Et on se retrouve après. Merci.
Pour précision, cette copie vidéo, bon, en dehors du fait que le son était assez sourd, ne comprend pas quelque chose qu'on ne trouve pratiquement plus dans les copies du film, je pense. C'est-à-dire que Kozarinski avait teint en rouge les plans des camps de concentration, les plans des cadavres dans les camps de concentration, pour signaler à cet endroit qu'il s'agissait d'une exception au principe de n'utiliser que des plans tirés des actualités officielles de l'époque. Il y a un autre exemple qui est au moment du récit d'un rêve, qui est un plan d'un pont secoué par un ouragan, qui est un plan tiré d'un film qui s'appelle A-Movie, d'un film underground américain. Et il y a évidemment les dernières images, ce sont des images des actualités de la Libération, dont en partie Libération de Paris, que vous avez vu, que si vous avez suivi l'avant-dernier cycle de ces regards critiques, vous avez pu voir. Voilà, pour des précisions. La raison pour laquelle j'avais souhaité voir ce film, revoir ce film, était bien sûr, bon, en dehors de sa force qui reste très impressionnante, qui à chaque vision, je pense, c'était qu'il représentait un travail dont je n'ai pas vu beaucoup d'autres exemples dans les films dits de montage. Alors les films dits de montage. Sont un genre particulier du film de non-fiction. Donc ils entrent dans la catégorie documentaire, bien sûr, puisqu'il n'y a pas d'acteurs à qui on donne des rôles à jouer, sauf dans des formes hybrides qui se sont développées depuis et qui peuvent être dont certains cas peuvent être intéressants et d'autres peuvent être simplement une forme de routine télévisuelle. Donc le film de montage correspond à plusieurs volontés, à plusieurs désirs. Le premier étant d'utiliser des plans du matériel filmé enregistré dans le passé, dans le but de reconstituer une idée de ce passé, ou dans le but de reconstituer une chronologie de ce passé, mais généralement cette chronologie dans un but qui n'est pas strictement un but de narratif, mais qui a des arrière-plans qui peuvent être idéologiques, publicitaires ou des tas d'autres raisons. Bon, de ce côté, on peut tracer une histoire du film qu'on appelle en France de montage, qu'on appelle en anglais compilation film, mais après beaucoup de discussions, la terminologie de toute façon reste tout à fait insatisfaisante. Les films de montage en général, je crois qu'on peut dire presque dans la quasi-totalité des cas, ont été des films soit de propagande, soit d'éducation. Ils ont toujours eu pour but de donner une idée précise sur un moment de l'histoire ou sur un élément historique remontant au passé, qui peut être d'ordre politique, historique, économique, etc. Donc dans ce sens, on peut dire que ce sont des films d'idées. Ce qui est loin d'être évident pour le documentaire. Pour le documentaire, dans l'acception générale du terme, les films de montage représentent soit, disons, pour les premiers, disons, les films soviétiques des années 20 d'Esther Shoub, des films destinés à montrer le bien fondé de la pourriture du tsarisme et le bien fondé de la révolution, pour les films de l'après-guerre, approuver le mal du nazisme et des vaincus, et d'expliquer de quelle manière le national-socialisme a pu se construire, a pu prendre le pouvoir, ou de quelle manière il a pu être vaincu. Le genre, autrement, il y a également des films de... Il y a également des films pendant la guerre qui ont le même but, mais évidemment, allant dans le sens des différents participants à la guerre, au point que certains films réalisés par les Alliés ont pu avoir différentes versions selon que c'était des films américains ou anglais, voire soviétiques, ou que les films soviétiques ont pu être utilisés, mais remontés ou remaniés par leurs alliés pour la diffusion en Occident. Dans l'après-guerre, on trouve très peu d'exemples de films de montage qui ne répondent pas à cette définition. J'en trouve quelques-uns dans l'après-guerre. J'ai un peu réfléchi à ce qu'il pouvait y avoir eu dans l'après-guerre, et j'ai généralement trouvé des films d'auteurs, mais je veux dire d'auteurs au sens littéraire. Par exemple, bon, le plus connu, surtout parce qu'il a été abondamment commenté et par André Bazin dans un texte célèbre, et par Chris Marker à l'intérieur de plusieurs de ses films, c'est Paris 1900 de Nicole Védresse. On sait que Nicole Védresse n'était pas seulement une cinéaste, c'était avant tout un écrivain, et que Paris 1900 est une œuvre qui ne vise pas à... qui ne cherche pas une leçon, mais qui cherche à réfléchir sur ce qu'a pu être une période sans aller vers un sens unique qui pourrait être, disons, tout cela nous menait à la catastrophe de la Première Guerre mondiale. D'autres exemples peuvent être, il n'y en a pas énormément, d'autres exemples peuvent être ceux de Franco Fortini, que vous connaissez peut-être par le film de Jean-Marie Straub et Daniel Huillet, Fortini Cani. Fortini a participé à un film qui s'appelait Aux armes, nous sommes fascistes, qui a été un travail collectif avec trois réalisateurs et lui, développant une analyse en 62, donc juste après la dernière menace de coup d'État fasciste en juin 60 en Italie, un travail d'écrivain et un travail de monteur simultanément. La même équipe a essayé, donc dans des circonstances de production assez fragiles, puisque la même équipe a essayé 2 ans plus tard de faire un film. Donc on était en 64, peu après la déstalinisation, et dans une période critique pour la gauche italienne, de faire un film, de faire le point, donc 8 ans après le 20e congrès, sur ce qu'était le phénomène stalinien. Ça s'appelait « La statue de Staline ». Et le film a été entièrement, bon, avec la même production, même équipe, sauf un, de réalisateurs. Et le film a été démantelé par le producteur, qui en a fait, qui au lieu de l'appeler « La statue de Staline », l'a appelé « Procès à Staline ». Et le film est sorti sans le nom de ses auteurs. Ce qui indique également le risque... de ce rôle, enfin le problème risqué du rôle de l'interaction entre l'image et le commentaire, puisque on peut imaginer différentes versions d'un film avec différentes donnant un différent sens. Il y a quelques autres exemples de films remonter ou retirer ou reformer au fur et à mesure que la politique post-45 évoluait. En particulier, les films tournés par les Alliés sur l'Allemagne ont évolué, leurs versions ont évolué en fonction d'une politique qui était passée d'une punition de l'Allemagne à un redressement de l'Allemagne en vue d'en faire un bastion contre la menace soviétique. C'est pour ces raisons que le film de Kozarinski me paraît exceptionnel. J'oubliais un double exemple après le, qui est un petit prélude quand même au film de Kozarinski. Dans les années 60, il y a quand même deux exemples de films de montage qui sont des films à la première personne. Il y en a un que vous connaissez certainement qui s'appelle L'Arabia, qui est un film de Pasolini et qui est sans doute la première tentative d'un film de montage à la première personne où le point de vue de l'auteur, auteur total, auteur aussi bien de la conception du commentaire que du montage image, forme une sorte de poème idéologique, historique sur ce qu'a pu être l'après-guerre. Vous connaissez aussi sans doute le sort de ce film qui avait été commandé simultanément à deux personnalités, deux auteurs littéraires idéologiquement opposés, Guareschi, l'auteur de Don Camillo, et Pasolini. Le film de Guareschi s'est montré tellement... s'est prouvé tellement outrancièrement réactionnaire et raciste que le film n'a jamais été diffusé et que finalement qu'il a fallu attendre des années pour qu'on puisse retrouver aujourd'hui, je pense qu'il est accessible dans une version DVD, le double film, le film avant tout de Pasolini et puis le pamphlet fascisant de Guareschi. Il y a enfin un autre film, alors celui-là totalement inconnu, donc je m'excuse d'y passer 5 minutes, mais qui serait également immontrable ici, qui est 2 ans après, entre le film de Pasolini et 68, Mikhail Rom, vieux cinéaste soviétique, né avec le siècle, enfin qui avait donc 66 ans à l'époque, fait un film qui s'appelle « Le fascisme ordinaire ». Donc le titre est assez connu, et ce film est son point de vue... de cinéaste vieillissant, ayant connu le stalinisme, ayant participé, d'ailleurs par des films de commande, ayant participé au culte de la personnalité, ayant réfléchi pendant des années à ce que ça pouvait être, ayant reconsidéré son attitude envers le cinéma à partir du 20e congrès de 56, et en 65-66, donc, Rom décide de faire un film sur ce qu'a représenté le fascisme. Il a appelé ça le fascisme ordinaire, et c'est un film de montage, donc avec tous les éléments qu'on pouvait trouver et dans les archives différentes, dans les diverses archives soviétiques et dans des archives de l'Ouest. Mais c'est ce qu'on ne peut pas savoir ici, un point de vue personnel. Le commentaire est dit par la voix vieillissante d'un homme qui n'est pas d'un homme fatigué, d'un homme qui a vécu des phénomènes analogues au fascisme et au fascisme ordinaire en Union soviétique. C'est quelque chose qui n'est pas qu'on lit en filigrane dans le film, et d'un homme qui essaye de parler à une autre génération de son point de vue. Alors le film, on ne peut pas le voir ici. Pourquoi ? Parce qu'il a été, il est sorti en version française, donc le commentateur français n'a pas du tout été choisi, en fonction, a été choisi comme le commentateur normal d'un documentaire. Et par ailleurs, le film a été amputé de 38 minutes. Donc tous les aspects personnels, en particulier le dialogue, enfin pas le dialogue, mais la réflexion de Rome sur ce que pouvait être la vie d'un enfant aujourd'hui et le rapport entre cette vie et le phénomène hitlérien, le phénomène national-socialiste, a été complètement amputé. Et le film aujourd'hui, qui a été, je crois, édité en VHS, ne ressemble en rien, donc il en manque un bon tiers, et il ne ressemble en rien à ce qu'était le film, mais qui représentait quand même, et pour le cinéma soviétique, puisqu'il n'était pas tellement courant que dans le cinéma soviétique on parle à la première personne, et pour ce genre ou cette catégorie assez étrange qu'est le film de montage, assez particulière, qui est film de montage, quelque chose de... un phénomène, je crois, exceptionnel. Il y en a eu d'autres depuis, je pense, mais le film de Kozarinski est intéressant dans la mesure où, précisément, ce n'est pas un film à la première personne. Donc là, je n'ai pas besoin de vous rappeler ce qu'est le film, puisque vous venez de le voir, mais enfin, l'intérêt du film est dans un travail de montage conceptuel qui est la confrontation entre un texte qui avait beaucoup touché Kozarinski à sa lecture en 60, quand il était sorti en français en 78, et la manière dont on pouvait, Kozarinski s'était posé la question de comment peut-on faire un film à partir d'un texte. Comment peut-on faire un film à partir du texte d'un occupant qui n'est pas dupe, mais néanmoins d'un occupant qui est complice de cela, donc de quelqu'un dont le texte dit à la fois des vérités objectives, des vérités intérieures, la réflexion de Jünger, et des mensonges qui peuvent être des mensonges de Jünger à lui-même. Quelque chose, un certain nombre de choses, il est évident dans le texte qui est choisi là que Jünger se ment à lui-même, non seulement ne dit pas toute la vérité en ce qui concerne la réalité de l'occupation, en dit ce qu'il en voit ou ce qu'il veut en voir, et parle de lui-même avec un certain aveuglement, puisque cette déploration constante de la fin d'une guerre noble pour passer à quelque chose qui deviendra la guerre faite par des techniciens, qui est un leitmotiv d'un bout à l'autre du film, il est évident qu'il pouvait difficilement l'ignorer quand il a repris l'uniforme et quand il a accepté d'être un officier occupant à Paris. On voit également d'ailleurs un aspect, l'aspect mondain de Jünger fait partie aussi des éléments humoristiques de ce film. J'ai vu ici que la salle regardait le film avec un, enfin, écoutait le film avec un grand sérieux, mais je pense que dans d'autres circonstances, devant un autre public, on ne peut pas manquer d'avoir au moins un sourire devant la manière dont Junger fréquente les mondanités parisiennes, avec évidemment un certain clin d'œil de la part de Kozarinski, puisqu'il y fait paraître des personnages qui lui sont particulièrement chers en tant que cinéphile ou en tant qu'homme de culture argentin. Donc on a au départ ce texte qui est un texte à plusieurs niveaux ou à plusieurs qu'il faut lire à plusieurs degrés. Et par ailleurs, la confrontation est avec des actualités collaboratrices et des actualités qui sont non seulement collaboratrices, mais qui sont également la poursuite d'un point de vue français d'extrême droite, qui était ce qui avait formé, disons, l'idéologie de la collaboration. Alors ces actualités sont importantes aussi dans le film en tant qu'élément de montage à plusieurs degrés. D'une part, elles montrent des choses qui ont été enregistrées dans les années que décrit Junger. Donc elles montrent des choses que l'objectif a enregistrées. Ces choses-là, elles y étaient, elles ont été vues. La réception de Zara Leander ou les bombardements anglais. Là, il y a quelque chose qui a été vu, qui a été choisi par ces actualités, mais néanmoins qui a été vu. Ce sont les seuls documents dont Kozarinski a choisi de se servir dans le film. Et elles ont également un aspect. Il y a l'aspect du filmage, un style de filmage. Alors j'étais très étonné il y a eu une période au début d'Arte où c'était très à la mode de montrer les actualités anciennes. Et c'était la fin d'une période où on avait beaucoup, à partir de 68-70, il y a eu un certain nombre, d'une part, de films de montage. Il y avait 36, Le Grand Tournant d'Henri de Turenne. Il y avait ensuite des films après tout cela, venant après un moment assez décisif qui a été entre 69 et vu en France en 71, Le Chagrin et la Pitié de Marcel Ophuls. Donc à partir de là, un genre s'est développé qui était une sorte d'enquête idéologique sur telle ou telle période, qui a été faite à partir de certaines idées. Par exemple, Harry C. Sédoui ont fait un film qui couvrait toute une période très longue, parce que leur idée c'était que les Français avaient toujours besoin d'un père. Donc exemple, d'abord c'était Pétain, ensuite c'était De Gaulle, et à partir de là ils faisaient un film donc dont le propos idéologique était univoque et très clair d'emblée. Mais dans la même période, donc, les historiens ont commencé à s'intéresser au cinéma. Et à ma grande surprise à l'époque, les historiens n'ont voulu se servir du cinéma que comme soutien de l'histoire. Ils ne se sont absolument pas préoccupés de ce que pouvait être le sens des images qui étaient enregistré. Alors ça a pris des formes. Il y a eu une émission à grand succès qui a duré très très longtemps de Marc Ferraud sur Arte, et dans cette émission Marc Ferraud se préoccupait essentiellement des petits détails de l'histoire qui pouvaient être révélés par les actualités de tel ou tel pays et ne se préoccupait absolument pas de ce qui me paraissait à moi un des points essentiels de ces actualités, c'est-à-dire leur chair, leur corps, le style de leurs images, le style de leurs commentaires, etc. Alors j'avais pensé vous lire, je ne sais pas si on a le temps, mais j'avais pensé vous lire. J'ai retrouvé un livre assez remarquable qui est le premier livre sur le film de montage, qui remonte très loin et qui est un livre de 64. Je ne le retrouve pas. Ce premier livre a été fait par un personnage tout à fait remarquable qui s'appelle Jay Leda, qui a écrit la première histoire du cinéma soviétique en tant que témoin, qui est allé, donc jeune américain, qui à l'époque du New Deal a voulu aller en Union soviétique pour être l'assistant d'Eisenstein. Et il s'est posé la question du film de montage. Ce livre m'a toujours paru un peu maigre. C'est le premier, il l'a écrit en 64. Le livre m'a toujours paru un petit peu maigre. Mais il y avait quand même cette remarque où on reconnaît le disciple d'Eisenstein qui était « Il y a un double contenu dans chaque morceau d'actualité. Avant tout, il contient une information de différentes sortes, l'aspect de figure de personnage mondial à un moment de l'histoire, la manière dont les gens travaillent et jouent dans certains endroits, dans certaines années, l'apparence d'une rue, d'une tragédie, d'un nouvel accomplissement, etc. À partir, au-delà de son information, chaque fragment d'actualité a un contenu formel qui n'est pas remarqué mais qui est visible. Il inclut tous les éléments qui rendent possible au contenu d'information de nous être communiqués. Je ne continue pas, vous reconnaissez la leçon d'Eisenstein et Jay Leda déplore que les films de montage dont il parle à l'époque ne tiennent pas compte de cet aspect-là. Dans la préparation des moments séparés, qu'ils soient nouveaux ou vieux, pour faire un ensemble de films de montage, la conscience de tous leurs éléments joue rarement un rôle. Il est possible que des monteurs expérimentés mettent au point des intuitions professionnelles concernant le contenu formel, mais ça va rarement au-delà du but, au-delà de l'objectif d'une continuité lisse et d'effet de choc. Dans le montage d'actualité du passé, pour présenter des idées historiques ou pour agiter un public ou l'amener à penser, il est devenu évident aujourd'hui que négliger ce contenu formel, le contenu formel de chaque fragment, affaiblit son contenu d'information et laisse le public chercher le but de la séquence et l'idée de l'ensemble. C'est ce que j'ai pu, c'est ce que vous pouvez constater quand vous voyez encore les films de montage comme une mini-série à grand succès qui a pu passer, qui est passé en 3 épisodes sur France 2 il y a quelques semaines. Vous pouvez constater la même chose, c'est-à-dire que la parole jouait un rôle dominant et même étouffant, et que pour le reste, seuls les effets de choc étaient recherchés. Donc l'idée de se poser la question du contenu, de se poser la question du contrepoint, de se poser la question de la confrontation, de la contradiction entre des éléments de montage est quelque chose qu'on trouve rarement dans le cinéma de montage, et il me semble que dans le film de Kozarinski, non seulement c'est là dans le propos qui est clair, donc c'est confronter un mensonge avec sa part de vérité, avec un autre mensonge à plusieurs niveaux, niveau image et niveau son, qui est celui des actualités, et les confronter, eux, à un commentaire personnel de l'auteur qui est l'utilisation des musiques. Il y a là un travail de montage très poussé qu'on peut examiner par exemple, dans les choix des musiques, qui sont des musiques distinctes, comme vous avez vu au générique de fin. Donc, les musiques, il y a les musiques ariennes et il y a les musiques de Hans Pfitzner et de Richard Strauss, et les musiques dégénérées, qui sont les musiques de Franz Schreker et de Schoenberg. Ce qui ne veut pas nécessairement dire que les musiques ariennes sont les musiques les plus triomphales, puisque le film se termine sur deux morceaux extraordinaires qui sont l'un, la musique pour une scène de film de Schoenberg, également connue par un film de Straub-Huillet, qui lui est consacré, que nous entendons sur les derniers, dans le dernier morceau, dans le dernier mouvement musical du film, sur les dernières distractions de Paris occupé. Ça commence par le défilé de mode et ça continue par différents spectacles. Et là, nous avons un long fragment de la musique pour une scène de film imaginaire, je précise, que Schoenberg avait composé à la fin des années 20 et qui avait pour sous-titre menace, danger menaçant, angoisse et catastrophe. Et enfin, la dernière musique du film, qui est une musique plutôt de pitié, qui est une musique de douleur et de pitié, n'est pas une musique dégénérée, mais c'est la musique de deux des quatre derniers leaders de Richard Strauss, qui sont un des grands moments, ou peut-être même le plus grand moment, de la musique de Strauss, dont on sait que ça a été un collaborateur bougon, mais néanmoins collaborateur du nazisme. Ce genre d'exemple, ce genre d'exemple peut s'ajouter à d'autres exemples de montage, de confrontation. Vous avez pu également constater la non chronicité de la continuité. On passe d'une entrée de journal de juillet à une entrée de journal de mai 41, et puis vous avez vu également que généralement le principe est un principe de contrepoint plutôt que d'illustration en ce qui concerne le journal et les images d'actualité. Alors il y a des principes de confrontation simple, par exemple d'écrire des fêtes mondaines et de montrer des gens faisant la queue pour la nourriture. Et puis il y a des principes plus subtils qui sont en particulier celui qui est 23 juin depuis hier nous sommes en guerre avec l'Union soviétique. Il devient de plus en plus difficile, je me souviens mal de la phrase, mais il devient de plus en plus difficile de déterminer quels sont les faits. Et je la cite mal, mais j'ai noté quelque part. Et la difficulté que peut avoir l'écrivain à, devant pourtant un fait qui est un fait objectif, c'est-à-dire l'entrée des armées allemandes dans l'Union soviétique, le moment où il lui devient de plus en plus difficile d'avoir une idée claire sur les événements auxquels il assiste. Et ce fragment du journal est confronté avec des images de la scène charriant des blocs de glace et d'une patineuse sur la terrasse du palais de Chaillot faisant des figures sur la neige. Comme on vient de le dire et comme nous savons tous, l'entrée des armées allemandes dans l'Union soviétique, c'est le 22 juin 41. Donc la neige est un pur contrepoint, mais un contrepoint qui n'est pas fait pour signifier quelque chose en particulier. Voilà un certain nombre des subtilités de ce film dont moi je n'arrive pas à bout. Je l'ai moins bien vu aujourd'hui, par exemple, que la dernière fois, mais qui me paraît intéressant sur ce qu'il peut représenter pour un cinéaste qui a voulu faire ce film pendant 3 ans, puisque l'accès aux archives des actualités françaises était un accès difficile, qu'il y avait des réticences, évidemment, quant à la confrontation avec le texte de Jünger, qui était malgré tout un occupant, qui était un occupant, pas malgré tout, et également le choix de la part de quelqu'un qui se définit non pas comme un réfugié politique de l'Argentine de la dictature, mais comme un exilé culturel, d'avoir choisi ce moment où on voit une occupation avec ses aspects qui est indissociable de ses aspects les plus frivoles, voire les plus légers. Bon, c'est quelque chose qui en France, sur le moment, en 81, a été saisi, mais n'a pas été. Bon, je me souviens de la sortie de la première projection. Je peux donner deux exemples opposés à la sortie de la première projection. Serge Danet, sortant de la projection, avec une certaine ironie, me disant « Il n'y a pas de doute, les nazis avaient tort », de manière un peu hautaine envers le film. Et Pierre Zucca, réalisateur méconnu, photographe et réalisateur méconnu, fils d'André Zucca, photographe célèbre, dont il y a eu une exposition l'an dernier qui a donné lieu à beaucoup de polémiques, parce qu'André Zucca était un collaborateur. André Zucca a photographié, d'une part c'était un photographe de la collaboration, donc il disposait de pellicules, et il a photographié pour la revue des armées Signal, donc des images de collaboration ou des images militaires, et il a pu photographier en couleur, ce qui était évidemment un privilège rare à l'époque, où même les laboratoires de cinéma devaient demander l'autorisation d'obtenir de la pellicule pour les tirages. Et il a photographié Paris en couleur, ce qui a été le motif de cette exposition qui a donné lieu à un déchaînement de politiquement correct vertueux qui voulait refaire le procès d'André Zucca, mort quand même depuis un certain nombre d'années. Et nier tout intérêt à son travail. Travail d'ailleurs tout à fait discutable. Mais j'étais donc sorti de la projection avec Zucca, qui était avec Pierre Zucca, qui était très très bouleversé par le film et qui m'a. Donc on a pris l'autobus ensemble et qui m'a parlé pour la seule fois de notre connaissance de son père en termes très très durs. Et j'ai su depuis que. Bon, mais en même temps de ce sentiment qu'il avait eu pour la première fois de voir la réalité de l'occupation qu'il avait connue, évidemment, étant né à la fin de la guerre, je pense qu'il était aussi de 44, le sentiment qu'il avait eu de voir pour la première fois la nature de l'occupation, la réalité de l'occupation, une réalité symbolique de l'occupation telle qu'il avait eu par les récits de son père, qui était un grand raconteur et même un mythomane, comme on peut le voir en filigrane dans certains des films de Zucca, Rouge-Gorge en particulier. Donc cette réaction de Zucca m'avait beaucoup frappé. J'ai su par la suite d'ailleurs que ses relations avec son père étaient beaucoup plus ambiguës que la dureté avec laquelle il m'en avait parlé à l'époque. Et quand Kozarinski, 4 ans plus tard, est retourné en Argentine, où ces films ont été présentés, il a été frappé par l'accueil qui a été fait à ce film à une époque où le cinéma argentin se redressait de la dictature, où on faisait des films plutôt de bonne conscience sur des héros luttant contre les colonels ou contre les généraux, je ne sais plus ce que c'était là-bas. Et les gens lui avaient dit « mais c'est un film argentin » parce qu'il percevait la coexistence de ce que pouvait être l'horreur de la dictature et de ce que pouvait être une vérité d'un quotidien qui se poursuivait avec non seulement dans le quotidien mais également avec sa grande dose de frivolité, de nostalgie, etc. Voilà ce que je voulais dire sur les complexités de ce film. Je ne sais pas si on a sans doute le temps pour des interventions, une ou deux interventions, ou quelques autres. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai terminé.
On va prendre une remarque, une question. Sur votre réflexion sur les films de montage, y a-t-il la place pour les films de Guy Debord?
Ah oui. Non, pourquoi ? Non, non, au contraire. Non, non, au contraire. Non, non, j'en ai pas parlé parce que je les ai vus. Je les ai vus très tardivement. Et je les ai vus après, je les ai vus quand ils sont apparus en, en DVD. Hein. Et je les ai vus teintés par les histoires du cinéma de Godard, qui, de toute évidence, connaissait les films de Debord. Mais bien sûr, oui, oui, bien sûr, j'aurais pu en parler. Enfin, je n'ai pas grand chose à en dire parce que ce sont des films que je n'ai vus qu'une fois, mais et que j'ai surtout vu dans la relation avec le travail de Godard sur le cinéma, puisque les films de Debord sont également des films de également des films d'ailleurs d'un auteur littéraire, et que en retour d'ailleurs Godard a voulu lui tenait énormément dans cette dans ce travail de plusieurs d'une décennie environ sur les histoires du cinéma, à être reconnu aussi comme un auteur littéraire, puisqu'il importait beaucoup pour lui que les histoires du cinéma soient éditées par Gallimard.
Juste une petite question sur le, je vais pas dire la collaboration, sur le, y a-t-il eu travail en commun, coopération, juste accord entre Junger et Kozarinski?
Pour autant que je sache, Kozarinski a obtenu les droits de Christian Bourgois, qui venait de publier les 4 volumes des journaux d'occupation en français. Pour autant que je sache, je ne sais pas s'il lui a montré ensuite. Je pense qu'il l'a rencontré. Je suis à peu près sûr qu'il l'a rencontré lors de ce voyage à Paris de Junger, mais on n'a jamais parlé de la Junger. Junger a-t-il vu les films? Bon, en tout cas, il n'y a pas eu accord préalable, non. Ou il y a eu accord. Si accord il y a eu, c'est un accord qui a été négocié par Christian Bourgois.
Moi, je voudrais vous poser une question sur la musique et le film à propos de deux passages qui me semblent être une adéquation entre ce qui est montré et ce qui est entendu. C'est lorsque l'on entend la musique de Franz Lehár, c'est vraiment du Franz Lehár, et surtout, surtout, la séquence très intéressante de Karajan dirigeant le troisième, l'introduction du troisième acte de Meistersinger. Alors là, j'ai été frappé et je me demande comment vous analysez ça, étant donné qu'il y a une adéquation parfaite, sauf le fait que, bien sûr, on nous montre Winifred Wagner à un moment donné, la veuve de Siegfried, mais je ne comprends pas exactement, par rapport à votre discours, comment ça peut s'expliquer. Là, voilà ma question.
Oui, 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 bien sûr. Non, pardon, alors là, je n'ai pas été suffisamment clair. Il s'agit d'une citation des actualités. Les actualités avaient, les actualités qui généralement étaient tournées en muet, les actualités avaient le son pour des choses importantes comme des discours de DA ou de Laval ou pour des concerts. Donc là-dessus, il s'agit d'actualités sonores où le son a été enregistré, probablement pas en synchrone, mais où le son a été enregistré et ensuite monté. Donc dans ces cas-là, la citation est une citation, comme souvent, la citation est une citation des actualités images et son. Mais simplement, l'actualité était une actualité synchrone, alors qu'en général, les actualités sont faites du commentaire et de la musique propre aux actualités, qui est une musique anonyme en général, qui est une musique de bibliothèque en général. C'est-à-dire qu'il s'agissait, en exilé culturel, évidemment, Kozarinski était très sensible à l'aspect à son aspect flâneur dans Paris ou en France, aspect flâneur qui le rapprochait de Walter Benjamin, qui d'ailleurs paradoxalement le rapproche aussi de Junger, hein, les promenades de Junger, place du Terne, etc. Là on est dans quelque chose qui n'est pas entièrement, où la relation Kozarinski-Junger n'est pas entièrement une relation d'antagonisme. C'est aussi une relation mouvante, mais il s'agissait de citations. Il s'agit de faire un film de citations, comme Benjamin avait voulu faire un livre de citations avec son projet sur les passages, et de citations qui peuvent être citations intégrales ou citations de l'image seule, citations du son seul, ce qui est plus rare, ou citations des journaux. Citations toujours montées d'ailleurs. Il faut aussi préciser donc, que les actualités sont remontées, hein, sauf exception. Les plans d'actualité ont très rarement la durée des plans originaux. Il s'agit d'un montage, il s'agit presque, sauf exception, d'un montage original. Ça, la dernière fois, il y a un an ici, Kozarinski tenait à le préciser, que ces citations sont des citations d'images, mais rarement de séquences. Brut.
À ce propos, il y a quelque chose qui est très frappant, je trouve, dans le mouvement du film, c'est qu'il y a des vrais embardés. Au début, on est plutôt dans le point de vue de, où on pense être dans le point de vue de Junger, même s'il y a un art du contrepoint qui est toujours, enfin, qui est même sidérant quand Junger raconte l'exécution du déserteur. Qu'est-ce qu'on a en face, les images de Pétain. Enfin, c'est absolument sidérant. Mais au fur et à mesure que le film avance, on a l'impression que le point de vue de Junger disparaît, que ce qui prend de plus en plus de place, ce sont les images d'actualité, images et sons, justement. C'est vrai. Puis ensuite, on récupère le point de vue de Junger, comme si Junger n'était finalement qu'un ludion dans cet immense océan de monstruosité, de médiocrité.
Oui, c'est vrai. La relation avec Junger est mouvante, et il y a, bon, évidemment, une volonté de mouvements musicaux dont il y a quatre mouvements dont le télécinéma nous a privé du titre du deuxième mouvement que j'ai oublié, mais enfin il y a un andante con moto, un scherzo, je ne sais plus exactement quels sont les titres des quatre mouvements, mais enfin il y a visiblement une volonté d'accélération ou de changement de rythme très très net, qui est perceptible aussi dans les répétitions à l'intérieur de chaque séquence. Enfin bon, la fameuse répétition des défilés de mode qui prend un ton différent au dernier moment, dans le quatrième moment. De même aussi les rencontres mondaines qui à un moment sont assez coïncide assez bien avec le discours de Junger et qui ensuite deviennent beaucoup plus les mondanités des actualités, me semble-t-il. C'est-à-dire Zara Leander, ça n'est pas le journal de Junger je ne sais plus quelle est la dernière visite, ça n'est pas et ni Léard, ni Heinrich Georges, ni Karajan ne font partie du journal de Junger, visiblement. Ce genre de choses n'était pas, bon, de son point de vue, je suppose que c'était, qu'il considérait ça d'un air assez hautain, et du point de vue du film, son opinion n'est plus en question, enfin, son point de vue n'est plus en question, et il reviendra dans ce sentiment d'isolement, de défaite, emprunté à un petit flash en avant. Je pense que les dernières phrases du film viennent non pas des journaux d'occupation, mais de ce qui est appelé en Allemagne journaux d'occupation, c'est-à-dire les journaux d'occupation de l'Allemagne. Ces journaux où il s'est retiré dans sa tour d'ivoire de Kirchdorf, de son village, de sa ville natale. Voilà. Mais en effet, les accélérations sont nettes et sont déterminées, je pense. Bon, Kozarinski a toujours beaucoup insisté sur le travail avec sa monteuse et sur le fait qu'il avait quand même une part de co-auteur dans ce travail. Enfin, que ça avait été en tout cas un travail commun pendant 2 mois, par exemple. Les arrêts à l'image qui sont rares, mais qui sont, enfin, il y en a quand même 6 ou 7. Les arrêts à l'image sont venus de sa contemplation des images où lui s'arrêtait parce qu'il voyait une forme de, il voyait tout à coup une tête qui lui paraissait être le noyau d'une fiction possible. Que fait-il là? Quelle est l'histoire? Comment se trouve-t-il là? Comment cette femme en Ukraine qui lance des fleurs au véhicule nazi se trouve-t-elle là, etc. Et ça s'est arrivé avec sa monteuse. C'est sa monteuse qui lui a dit Pourquoi ne pas, à ce moment-là, pourquoi s'arrêter, pourquoi garder ça pour toi, fais-le donc dans le film. Donc là, il y a eu un aller-retour qui est assez typique de ce type de collaboration, je pense. Collaboration d'un auteur de fiction, parce qu'on n'a pas parlé du tout de la fictionnalisation du document, qui est quand même aussi un des points importants dans ce film, c'est-à-dire que le film devient des germes de fiction à partir de documents se donnant pour objectif. Il est difficile de ne pas y voir des possibilités fictionnelles, voire un récit fictionnel comme ceux qui sont, à mon avis, caractéristiques des démarches documentaires qui m'intéressent, en gros, et de beaucoup de documentaires qui ne sont pas, disons, le documentaire au sens plat comme ceux qu'on a pu voir. Disons, le premier grand documentaire qu'on a pu voir sur le fascisme s'appelait, sur le nazisme, c'était Mein Kampf d'Erwin Leiser au début des années 60, et très vite le genre s'est répandu, et c'est là-dessus qu'il y a eu la réaction d'une soit poétisation dans le cas de Pasolini, soit témoignage personnel dans le cas dont je parlais de Michael Rom, c'est pour ça présente beaucoup d'importance pour moi, soit de l'enquête comme celle de Marcel Ophuls, dont on a vu d'ailleurs dans les films suivants à quel point il aimait intégrer des éléments de jeu, de fiction, l'aspect ludique du document, et ses interventions fictionnelles se sont développées au fur et à mesure de ses films, et sa manière de prendre les gens, de piéger les gens qu'il interviewait n'est pas une manière traîtresse, c'est plutôt une manière ironique. Et d'ailleurs, pour boucler sur cet aspect de fiction, je voudrais quand même préciser que le livre que Marcel Ophuls a tiré du... Enfin bon, pour dire que je ne suis pas seul de cette opinion, que le livre que Marcel Ophuls a tiré du Chagrin et la pitié est un livre dédié à des cinéastes de fiction, dont son père, mais également d'autres. Le livre est dédié à 5 ou 6 cinéastes de ce qu'il appelle cette merveilleuse invention du siècle, fiction. Et quand il explique qu'il est devenu, ou que depuis quelques années il s'occupe du documentaire, il explique qu'en fait il ne voit absolument pas la différence entre les deux. Ça n'a rien à voir. Je n'arrive pas à citer de mémoire les phrases de Marcel Ophuls, mais il est clair que c'était quelque chose, en tout cas qu'il sait quelque chose, en tout cas qui le met, qui l'irrite beaucoup d'être défini comme réalisateur de fiction, de réalisateur de documentaire, pardon.
Ben, je crois que cette belle réponse va nous servir de conclusion, parce que non pas que vos ardeurs soient éteintes, mais parce qu'on nous réclame la salle pour pouvoir entamer des travaux d'électricité qui nous permettront de continuer à l'utiliser. Je me permets donc de vous couper comme ça en plein élan et de vous donner donc rendez-vous dans ce cycle le mois prochain, le lundi 9 novembre, pour un hommage au sang des bêtes. Au mois prochain, j'espère avant, à d'autres, une de nos séances.